Bonjour à tous. Depuis Aix-en-Provence, enfin non, je suis ici et parmi vous, mais je viens d'Aix-en-Provence et j'étais parmi vous il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut que je fasse attention, sinon Timothée va finir par m'épuiser en me sollicitant trop souvent. Mais j'ai plaisir à être parmi vous en ce 14 juillet, jour de fête nationale, jour aussi de finale d'un certain sport, mais bon. Non ? Non, ça y est, non, ben oui. On ne peut pas toujours gagner. Hein. Alors, je vous propose ce matin de méditer ensemble un psaume, le psaume 90, qui a la particularité d'être le seul psaume de Moïse, donc probablement un des plus anciens que nous ayons, et qui médite sur la fragilité et la brièveté de la vie humaine écourtée par le péché, par la condition déchue dans laquelle nous sommes. Et c'est un psaume, une prière plus exactement, qu'il a probablement rédigée vers la fin de sa vie, en méditant finalement sur tout ce qu'il avait pu observer pendant les 40 années que le peuple avait vécu dans le désert, toutes les déconvenues, tous les murmures, toutes les difficultés. Et cette première génération d'Israélites qui avait péri dans le désert et qui n'aura pas le privilège de mettre le pied en terre promise, ça, ce sera le privilège de la seconde génération. Et Moïse lui-même, qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte par la grâce de Dieu, eh bien, pour des raisons qui sont un peu étonnantes, n'aura pas non plus lui-même la possibilité de mettre les pieds en terre promise. Donc il est toujours intéressant de se mettre à l'écoute des derniers discours, des dernières paroles d'un homme sage à la fin de sa vie, les leçons un peu qu'il tire de toutes ses observations, et c'est un peu ce que l'on a dans ce psaume 90. Donc je lis l'intégralité de ce psaume. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps de culte où nous avons la joie de pouvoir nous approcher de toi et où nous savons aussi que tu nous fais la promesse de t'approcher de nous parce que tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui est venu nous chercher et celui qui veut aussi nous garder, nous bénir, répondre à nos besoins les plus profonds. Alors nous te prions maintenant de bénir la prédication de ta parole de la même manière que tu as béni aussi la première partie de ce culte. Amen. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, « Fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. » Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face, même ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et de ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Un homme se promène dans la pénombre du soir, le long d'une rivière. Il est en train de rentrer tranquillement chez lui après une journée de travail. Son pied heurte un sachet rempli de petites pierres. Alors, pour passer le temps, il s'amuse à les jeter dans l'eau les unes après les autres. Une fois rentré chez lui, il a quand même la curiosité de regarder à la lumière le contenu du sachet, et il s'aperçoit qu'il reste une petite pierre et qu'il s'agit d'une émeraude. En fait, il a passé son temps à jeter dans l'eau des pierres précieuses et le voilà qui s'arrache les cheveux. Eh bien, les jours de notre vie terrestre sont un peu comme des pierres précieuses que Dieu nous offre en cadeau. Alors nous devrions veiller, comme nous y exhorte ce psaume, à ne pas les gaspiller, mais au contraire à bien compter nos jours, comme si chaque journée que l'Éternel nous donne de vivre ici-bas était une pierre précieuse à polir, à prendre soin pour la faire resplendir de tout son éclat. Le psaume 90 nous parle de la fragilité et de la brièveté de la vie humaine. Le nombre de pierres précieuses est limité, en fait. On n'en a pas si en grand nombre à notre disposition. Il nous indique aussi pourquoi il en est ainsi, pourquoi notre condition humaine est parfois si étonnante par sa brièveté et par aussi sa difficulté, les difficultés que nous rencontrons dans la vie quotidienne, même lorsque nous sommes chrétiens. Parfois, ça nous interroge, comment cela se fait-il? Et Moïse tente aussi de répondre à cette question. Et une fois qu'il y a répondu, il termine en se demandant comment la compréhension de cette réalité devrait influencer notre manière de nous adresser à Dieu, mais aussi notre manière de nous comporter devant Dieu et les uns avec les autres. Moïse commence par affirmer la fidélité de Dieu. Il établit un contraste entre la grandeur de Dieu, sa fidélité, et la fragilité humaine. Dieu est fidèle et nous a servi de refuge de génération en génération, nous dit Moïse. Alors, dans chaque temple où le peuple de Dieu se rassemble, il y a généralement plusieurs générations qui se côtoient. Mais on pourrait revenir en arrière lorsque ce temple a été construit il y a bien longtemps. Et là, ce serait une toute autre génération que vous pourriez apercevoir. Ce ne serait pas le même pasteur que celui que vous avez aujourd'hui. Donc les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Mais celui qui ne change pas, c'est Dieu lui-même qui se montre fidèle et qui nous sert de refuge de génération en génération. Alors il y a un mouvement aux États-Unis, un mouvement qui malheureusement appartient à l'Église réformée, et qui considère que si les parents faisaient bien leur travail, alors tous leurs enfants devraient marcher avec Dieu. Et s'il y en a qui ne marchent pas avec Dieu, eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Vous imaginez le poids de culpabilité que l'on fait reposer avec ce genre de théorie sur les parents ? La Bible n'est pas aussi radicale que cela, aussi carrée, comme toujours. Elle est beaucoup plus nuancée. Bien sûr, elle invite les parents à se montrer pieux et à prendre soin de leurs enfants, y compris spirituellement. Mais le devenir de nos enfants ne nous appartient pas. Il y a là des mystères qui nous échappent. Dans ma famille, on est 4 enfants, 3 marchent avec Dieu, et puis il y en a un qui s'est jamais vraiment intéressé aux choses de Dieu. On ne sait pas pourquoi. Dieu n'a pas mis en lui ce désir de le connaître. Et dans toutes nos familles, nous avons cette même interrogation. Pourquoi cela marche avec Dieu et pourquoi cela ont du mal quand même à comprendre le privilège que nous avons de connaître Dieu. Et on peut penser à l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul, quand même, qui a annoncé l'évangile avec tellement de clarté, et pourtant il déplore que dans sa propre famille, eh bien, il y a des juifs qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur et qui peut-être ne le rencontreront jamais. C'est le mystère à l'intérieur d'Israël, de la partie qui a été obscurcie, alors qu'il y en a une autre partie qui a reconnu en Jésus le Messie. Mais Dieu ne manque pas, malgré tout, d'être fidèle de génération en génération. Et ne l'oublions pas, même lorsque les choses ne se passent pas exactement comme nous le voudrions dans nos familles, continuons à invoquer le nom de Dieu, à lui demander d'intervenir et de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Moïse remonte encore plus loin qu'aux origines de nos temples en affirmant que d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, non seulement de génération en génération depuis que l'humanité existe, mais avant même que l'humanité ait été créée, d'éternité en éternité, tu es Dieu, avant que les montagnes soient nées, avant que les galaxies aient été créées, Dieu existe de toute éternité. Il y a là de quoi nous donner le vertige et de savoir qu'un tel Dieu, un Dieu aussi grand, un Dieu aussi éternel, aussi puissant, aussi rempli de sagesse et de bonté, et notre Dieu, celui qui nous a créés, mais aussi celui qui prend soin de nous au quotidien, cela devrait quand même avoir un impact sur notre niveau d'anxiété et nous aider à traverser la vie avec plus de sérénité, plus de calme, parce que si les circonstances extérieures m'échappent, à moi qui suis un humain limité, par contre Dieu, lui, il existe de toute éternité, et cela, ce n'est rien pour lui. Il me demande juste de mettre ma petite foi en lui, de lui faire confiance et de laisser sa toute puissance, sa toute sagesse, sa toute connaissance prendre soin des aléas de ma vie humaine et terrestre. Quel contraste saisissant entre l'éternité de Dieu et la brièveté de notre vie. Au verset 3, tu fais retourner l'homme à la poussière et personne n'y échappe. Dans le livre des Nombres, on a l'histoire assez étonnante de Corée et de ses complices qui ont osé se révolter contre Moïse, contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Et ils ont été quand même assez sévèrement punis, puisqu'ils ont été engloutis vivants par la terre. La terre s'est ouverte sous leurs pieds et ils ont été, nous dit le texte, engloutis vivants. Là, c'est une manière assez spéciale de retourner à la poussière, vous en conviendrez. Mais même ceux qui meurent dans leur lit tranquillement, après avoir été rassasiés deux jours et avoir eu une vie heureuse, eh bien, ils ont le même destin et eux aussi vont devoir accepter que ça fait partie de leur humanité mortelle de retourner à la poussière. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil, un songe qui, au matin, passe comme l'herbe. Moïse multiplie les images pour nous aider à mieux saisir la fragilité et la brièveté de la vie humaine. Tu les emportes comme une voiture qui est emportée soudainement par une rivière en crue, comme un instant de sommeil. Vous savez, ces rêves que l'on a juste avant de se réveiller le matin, et c'est parce que c'est notre dernier rêve, on s'en souvient un petit peu, mais voilà, à peine réveillé, il passe aux oubliettes, c'est terminé, un souvenir fugace de quelque chose que j'ai pu rêver pendant la nuit. Et puis, comme l'herbe qui passe, parce que l'herbe, le matin, la fleur, surtout par les temps qui courent, quand il fait très chaud, la fleur que l'on cueille et qui se fane aussitôt, il en est ainsi de la vie humaine, surtout aux yeux de Dieu, pour qui un an, ben c'est comme 1000 ans, même si nous avons l'impression que parfois notre vie n'est pas si courte que ça, en réalité, comparée à l'éternité, notre vie n'est qu'un instant qui passe très très rapidement. Lors de la parade triomphale d'un général romain, on mettait un esclave à côté de lui qui lui soufflait à l'oreille alors qu'il recevait les éloges de la foule en raison de la grande victoire qu'il avait remportée sur les ennemis de Rome. Il lui soufflait à l'oreille « Memento mori, souviens-toi que tu mourras » pour relativiser la gloire humaine qu'il était en train de recevoir. une gloire tout aussi éphémère que celle que l'on peut recueillir sur les réseaux sociaux quand on commence à avoir plusieurs milliers de followers et que, voilà, je m'aperçois que j'ai plein de j'aime sur Facebook. Bon, les jeunes sont déjà sur d'autres réseaux sociaux. Mais là aussi, c'est une gloire tellement éphémère. Il faut nous méfier de ne pas remplacer la gloire qui vient de Dieu, de cette gloire superficielle qui peut nous venir des réseaux sociaux, pour peu que nous ayons une belle image de nous-mêmes, que nous sachions user des réseaux sociaux. Voici ce qu'a dit une mannequin australienne après s'être retirée d'Instagram, où elle était suivie quand même par 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui la suivaient régulièrement, ses photos, ses activités, tout ce qu'elle faisait. Donc ça rapporte beaucoup d'argent, les publicités, etc. Donc c'est un vrai travail qui rapporte beaucoup d'argent si on le fait avec succès. Mais au bout d'un moment, elle en a eu assez de cette superficialité. Et voici ce qu'elle dit. « Je veux consacrer désormais toutes ces heures que je passais autrefois devant un écran à des objectifs positifs dans la vie réelle, à mes relations personnelles et à mes aspirations. J'en ai assez de cette culture et de cette course à la célébrité. C'est stupide et c'est beaucoup de solitude intérieure et de mensonges. » Derrière cette célébrité virtuelle, il y a souvent beaucoup de souffrance, beaucoup de mensonges, beaucoup de superficialité et pas véritablement de sens profond donné à son existence. Et malgré l'argent que cela pouvait lui rapporter, elle a décidé d'arrêter pour se consacrer à la vie réelle, à ses relations avec de vraies personnes que je côtoie quotidiennement autour d'une table, sur le banc d'un temple, sur mon lieu de travail ou à l'école, de vraies personnes avec qui je peux avoir de vrais échanges plutôt que des échanges souvent superficiels sur les réseaux sociaux. Et il n'y a rien de plus terrible, je pense, que de perdre le sens d'une vraie vie sociale et de la remplacer par quelque chose de virtuel. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir une vie sociale, mais la vraie vie sociale, c'est quand on est avec des gens en présentiel. Et je pense que la période du Covid nous a enseigné cela. Ce n'était pas la même chose de se réunir sur les réseaux sociaux pour suivre nos cultes en ligne. Non seulement la vie humaine est fragile et brève, mais nous dit Moïse, elle est également pénible et misérable. Nos années sur terre ne sont que peine et misère. Voilà le constat que dresse Moïse de notre vie terrestre. Si encore elle n'était que courte, mais qu'elle était tout le temps belle, je serais prêt à l'accepter. Mais en plus, elle est difficile. Elle est courte et presque tellement difficile que ça me rassure quelque part qu'elle ne soit pas si longue. Parce que si je devais encore avoir 200 ans de difficultés dans ma vie, j'aime autant que ça s'arrête tout de suite, comme ça au moins je serai tranquille. Certes, il y a aussi des jours heureux, et nous en connaissons tous fort heureusement, mais il est bien court, le temps des cerises, on en trouve encore sur le marché, mais c'est peut-être parmi les dernières, et c'est aussi ce que nous dit l'Ecclésiaste, le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Et quand on regarde le texte un peu plus près, on pourrait traduire « Dieu a fait l'un à côté de l'autre ». Le jour du bonheur, le jour du malheur, Dieu les a fait vraiment dans une proximité telle que le passage de l'un à l'autre se fait de manière très brutale et très rapide. Donc lorsque je suis heureux, il faut que j'en profite parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et lorsque je suis dans le malheur, je dois quand même me réjouir en Dieu parce que ça peut changer aussi très vite. Et Dieu est capable de changer les circonstances. Mais que je sois dans le malheur ou dans le malheur, eh bien Dieu continue à être celui en qui je peux me réfugier. Pourquoi Dieu a-t-il laissé si peu de temps à ses créatures? Et pourquoi permet-il qu'ils rencontrent autant de difficultés? Eh bien, la réponse se trouve également dans le psaume. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. C'est parfois un peu effrayant de savoir que même les choses que nous dissimulons n'échappent pas au regard de Dieu. Achan qui avait caché au fond de sa tente une partie du butin, mais il a rapidement été identifié et il en a subi les conséquences. Les Israélites qui venaient d'être délivrés de l'esclavage égyptien, où ils subissaient toutes sortes de difficultés en raison de la cruauté du pharaon d'Égypte, commettent toutes sortes de péchés alors qu'ils sont un peuple libéré. Incrédulité, ingratitude, idolâtrie, mécontentement, insatisfaction, révolte. Ils sont terribles, ces Israélites, quand on lit le livre de l'Exode, le livre des Nombres. Est-ce que nous sommes si différents d'eux? Ça ne vous arrive jamais de vous dire, mais s'ils savaient vraiment qui je suis, si je pouvais vraiment leur montrer qui je suis en réalité, tellement loin de ce que je voudrais. Et l'apôtre Paul fait le même constat, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, par contre je fais le mal que je ne voudrais pas faire, même en tant que chrétien. Même en tant que chrétien, nous sommes encore tellement éloignés de ce que Dieu attend de nous. Donc nous ne sommes pas meilleurs que les Israélites, même si nous bénéficions de meilleures promesses, d'une meilleure alliance, d'une grâce surabondante, le péché est toujours présent. Alors le péché originel dont nous avons hérité de toutes les conséquences, mais aussi nos fautes personnelles qui contribuent très concrètement à rendre notre vie encore plus pénible. Ça fait partie de la réalité de nos vies en tant que chrétiens. Et il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas faire comme si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Non, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Nous sommes en attente d'un monde qui, lui, sera le meilleur des mondes, mais en attendant, il nous faut avancer par la foi. Tous nos jours déclinent à cause de ton courroux, un vieux mot pour parler aussi de la colère de Dieu. La colère de Dieu, un attribut que certains protestants n'aiment pas trop, ils préfèrent parler de l'amour de Dieu, de sa bienveillance et de sa patience, mais la Bible parle aussi de la justice de Dieu et de la colère qu'elle entraîne lorsqu'il est confronté à des choses qu'il n'apprécie pas, et notamment le mal que commettent les hommes. Donc plutôt que de nier la colère de Dieu, nous devrions plutôt chercher dans sa parole comment y échapper. Est-ce que Dieu a prévu quelque chose qui nous permette d'échapper à cette colère que nous méritons et qui est totalement justifiée et sainte, cette colère de Dieu qui est une réaction aussi à l'injustice des hommes? Alors devant un tel constat, un tel contraste entre l'éternité de Dieu et la fragilité humaine, Moïse termine le psaume en nous faisant trois recommandations. Tout d'abord, parce que la vie est courte, nous devrions faire un bon usage de notre temps. Ce verset bien connu, le verset 12, « Enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours, afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. » La sagesse, ici-bas, ça consiste à bien compter ces pierres précieuses dans le sachet et à ne pas les gaspiller, en évitant les distractions inutiles, en sachant préserver des temps de qualité dans notre vie chrétienne, avec d'autres chrétiens, avec nos familles, mais aussi avec Dieu. Et ça demande de ne pas se laisser distraire. Les psychologues ont identifié un nouveau syndrome qui est lié aux réseaux sociaux qu'on appelle la FOMO. C'est en fait la peur de passer à côté de quelque chose, d'un événement important. Et c'est comme ça que je suis amené, subrepticement, à passer mon temps à consulter mon téléphone parce que je ne voudrais louper aucune de mes notifications, comme si j'allais vraiment passer à côté de quelque chose d'aussi important que ça. Et tout ce temps qui est grignoté à consulter ce téléphone, eh bien c'est un temps qui m'empêche de ménager dans ma vie des moments de qualité où je suis entièrement focalisé sur quelque chose d'important et d'essentiel, comme un moment de culte, comme un moment que je passe avec un ami, comme un conseil que j'essaye de donner après avoir pris vraiment le temps d'écouter la situation d'un proche. Mais si je suis tout le temps accaparé et distrait par mille petites choses, je n'ai plus vraiment le temps d'écouter. Je suis distrait et je n'écoute que d'une oreille, ça ressort par l'autre. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours et à trouver le temps de qualité qui est digne de toi. Ensuite, parce que nous sommes toujours pécheurs, nous devrions faire appel quotidiennement à la grâce de Dieu, ne pas nous en priver. Reviens éternel, prie Moïse, aie pitié de tes serviteurs. Il avait fait une prière semblable après l'épisode du veau d'or, où l'Éternel avait proposé à Moïse de détruire le peuple qui était tellement infidèle et de le remplacer par un nouveau peuple issu de Moïse lui-même. C'était quand même assez tentant pour Moïse. Ok, je vais devenir le chef d'une nouvelle humanité, ça pourrait être intéressant. Mais non, Moïse n'était pas comme ça. Il aimait tellement ce peuple malgré ses défauts qu'il a prié « Renonce, Seigneur, à ton ardente colère. Je sais qu'elle est légitime, je sais qu'il mérite que tu les détruises, mais renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. » C'est un test en réalité. Et Moïse a réussi ce test. Et Dieu, bien sûr, s'est révélé, pas très longtemps après, comme l'Éternel qui est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et il a épargné son peuple, il a continué à marcher au milieu de son peuple, au sein du tabernacle, et à l'accompagner dans toutes ses épreuves. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Vous avez peut-être déjà lu des livres de développement personnel, comment être heureux dans sa vie. Beaucoup parfois de conseils très, très pertinents, hein, mais là vous avez peut-être le plus précieux de tous les conseils que vous ayez jamais entendus pour avoir une vie heureuse. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, de ta bonté, de ta grâce. Prenons le temps chaque matin de nous immerger dans la bonté de Dieu, dans sa bienveillance, dans son caractère, ce que nous connaissons de lui, ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et la conséquence, c'est que nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Et là, il y a une clé de la vie chrétienne qu'il nous faut nous approprier. Troisième et dernière recommandation, parce que la vie est quand même difficile et pénible, nous devrions nous réfugier en Dieu. Nous avons déjà vu que Dieu avait été un refuge pour Israël de génération en génération. Moïse termine le psaume en demandant à Dieu d'inverser la proportion entre les jours de malheur et les jours de bonheur. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Autrement dit, Moïse n'accepte pas cette situation. Il a une telle connaissance de Dieu qu'il sait que ça ne peut être que la volonté de Dieu de remplacer les jours de malheur par des jours de bonheur, de remplacer la malédiction par la bénédiction, de remplacer la tristesse par la joie. Les Israélites en avaient connu bien des jours de malheur en Égypte, mais aussi par leur propre faute dans le désert. Dieu a exaucé cette prière de Moïse, même si lui-même ne l'a pas vécu, en faisant entrer la seconde génération dans le pays de la promesse, pays où coule le lait ou le miel, pays de jours heureux, pays de cerises abondantes et toutes sortes de fruits orientaux. Ce ne fut pourtant pas la fin de leur malheur, comme le montre la suite de l'histoire d'Israël. Quand on lit le livre des Juges, on est déjà dans la terre promise, mais les choses, encore une fois, par la propre faute d'Israël, eh bien, c'est des conséquences négatives, avec des défaites militaires, des famines, des épidémies, des déportations. Donc on n'a pas vraiment encore atteint le bonheur escompté tel que Moïse l'avait demandé à Dieu dans sa prière. Il faudra attendre en réalité la venue du Messie pour que soit résolu de manière plus définitive et radicale le problème de la fragilité et de la brièveté de la vie humaine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, et qu'il existe lui-même d'éternité en éternité, que Dieu le Fils était avec Dieu le Père et avec Dieu le Saint-Esprit de toute éternité, avant même que le monde soit, eh bien il partage l'éternité de Dieu le Père. Il sait ce que c'est que d'être éternel, que d'être même en dehors du temps. Mais parce qu'il s'est fait vrai homme, il partage aussi notre fragilité, nos limites, notre misère, à l'exception, nous dit la Bible, du péché. Il est donc le parfait médiateur entre le Dieu éternel et les hommes mortels et misérables. Par sa mort sur la croix, il a attiré sur lui la colère que nous méritions, et c'est là la solution que nous pouvons trouver dans la Bible. Comment échapper à la colère de Dieu? Oui, lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, eh bien, la colère de Dieu est comme détournée de moi-même parce qu'elle est tombée sur Jésus-Christ lorsqu'il est mort à la croix. Par sa résurrection, il nous donne une espérance, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de jours heureux. Ça commence déjà un peu ici-bas, nous sommes déjà de nouvelles créatures, mais nous le vivrons pleinement lorsque le Christ reviendra nous chercher et que nous entrerons dans la véritable terre promise qui était annoncée de manière imparfaite et partielle par le pays de Canaan, lorsque nous serons pour toujours avec le Seigneur dans la patrie céleste que nous attendons tous avec impatience. Et par son intercession, parce qu'il est assis en ce moment même à la droite du Père, par son intercession, il nous garde jusqu'à son retour. Seigneur, est-ce que je vais, comme Israël, passer mon temps à me détourner de toi et à être infidèle? Par nature, oui, c'est ce que je devrais faire, mais parce que le Christ est en train d'intercéder en notre faveur, nous pouvons recevoir déjà le pardon de nos fautes, mais aussi la garantie que c'est lui qui va nous garder jusqu'à la fin et que la bonne œuvre qu'il a commencée par sa grâce en nous, eh bien, c'est lui qui va la mener à la perfection. Par moi-même, j'en suis incapable, je suis incertain du lendemain, mais parce que je suis entre les bonnes mains de ce Dieu éternel, en Jésus-Christ, eh bien, je peux être sûr que je vais pouvoir persévérer jusqu'à la fin et entrer dans cette béatitude finale et éternelle. Lorsque nous mettons notre foi en lui, il efface nos fautes, nous impute ses mérites, il remplace le bonheur par le malheur par le bonheur, la malédiction par la bénédiction, l'hostilité par la paix. L'hostilité avec Dieu, par la paix avec Dieu, l'hostilité avec mes semblables, par la paix avec mes semblables, dans la mesure où cela dépend de moi. C'est un peu comme s'il disait à l'homme qui avait jeté les pierres précieuses dans la rivière, l'histoire par laquelle j'ai commencé cette prédication, en fait, oui, c'est bien dommage que tu les aies jetées dans la rivière, parce que tu as perdu quand même beaucoup de choses précieuses, mais rassure-toi, j'étais là, je te suivais, et au fur et à mesure que tu les jetais dans la rivière, je passais derrière toi pour les récupérer. Donc les voilà maintenant, je te les rends, je te les restitue. Elles sont à toi, rien n'est perdu. Et si tu as besoin de davantage, pas de problème, j'ai un trésor de pierres précieuses, de colliers, un peu comme le comte de Monte Cristo, vous savez. Un trésor infini à ta disposition, il suffit que tu demandes, et je le mettrai à ta disposition seulement si tu en as réellement besoin. Eh bien, soyons reconnaissants pour un tel Dieu de grâce qui est attentif à notre condition humaine, si fragile, si misérable, et qui a prévu en Jésus-Christ une solution qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer, mais qui est la solution que Dieu lui-même a imaginée, et dont nous sommes les heureux, les privilégiés de recevoir une telle grâce en tant qu'enfant de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce psaume qui nous a été transmis depuis Moïse, de génération en génération, et qui nous rappelle cette réalité du contraste saisissant, étourdissant, entre ton éternité et puis notre fragilité. Mais depuis Moïse, la promesse qui avait été faite au patriarche a été accomplie par la venue de Jésus-Christ. Nous savons donc quelle est la réponse, quelle est la solution à cette solution de déchéance et de détresse dans laquelle nous sommes. Nous te remercions de tout notre cœur d'avoir ouvert nos yeux afin que nous puissions nous saisir d'une telle réponse, d'un tel salut, d'une telle grâce. Et nous te prions de nous garder dans les jours qui viennent, de continuer à remplacer les jours de malheur par des jours de bonheur, et que même lorsque nous rencontrons la difficulté, nous puissions continuer à te faire confiance, nous puissions continuer à avancer jusqu'au jour où nous serons en présentiel avec toi et que nous pourrons ensemble méditer sur l'œuvre de ta grâce dans nos vies, cette œuvre mystérieuse, cette œuvre souvent qui passe inaperçue aux yeux des hommes, mais qui est l'œuvre de ta sagesse et de ta bienveillance dans notre vie. Amen.